10 années hors normes, le podcast. À l'occasion des 10 ans d'hors normes, nous avons souhaité revenir sur des moments qui ont marqué la vie du magazine. Entre anecdotes et temps forts, Jean-Luc Fournier, le directeur de la rédaction, nous emmène dans les coulisses et revient sur ces 10 années hors normes. De retour pour un nouvel épisode 10 années hors normes, le podcast. On continue à cheminer dans l'histoire du magazine hors normes et aussi en quelque sorte l'histoire de Jean-Luc qui est avec nous comme toujours pour cette série. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour Lisa.
Alors on s'était quitté juste après le rachat un peu surprise pour toi du magazine par Patrick. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer qu'est-ce qui s'est mis en place, comment ça s'est développé? On a notamment parlé du club des partenaires. Voilà, qu'est-ce que ça a changé pour toi au quotidien?
Comme je le disais, la façon de faire mon métier a littéralement changé. Patrick s'occupe désormais de tout ce qui me prenait beaucoup de temps et d'énergie auparavant, puisque j'étais tout seul à la manœuvre de tout ça. Je retrouve le plaisir de faire mon vrai métier. Et on est donc déjà en 2017, au moment de la sortie du premier numéro de la nouvelle série, au printemps. Et entre-temps, un homme est arrivé, c'est Régis Pétonneuf, que Patrick a déniché, qui est un directeur commercial jeune, dynamique, concerné, amoureux d'hors normes, et qui va beaucoup nous aider sur le terrain. C'était un peu l'homme qui manquait au quotidien, en tout cas, sur le terrain, et qui, accompagné par Patrick, efficacement par Patrick, va contribuer considérablement à monter ce club des partenaires, comme on le disait dans le dernier podcast, avec des rentrées d'argent désormais régulières, assurées pour 2, 3, 4 numéros d'avance, ce qui va rendre confortable le travail de tout le monde. Donc, comment ça se traduit au niveau d'Hors Normes? C'est qu'on passe très vite à 128 pages, puis ensuite à 146 pages. On quitte notre jauge traditionnelle de 88, centaines de pages.
Donc là, forcément, tu as besoin de nouveaux contributeurs.
J'ai besoin de nouveaux contributeurs, c'est-à-dire des journalistes avant tout. Donc on étoffe l'équipe rédactionnelle avec de jeunes plumes que je connais pour la plupart depuis longtemps, mais qui vont nous rejoindre. On va en parler tout à l'heure.
Alors, au tout début de l'histoire, vous étiez deux.
Oui.
Puis quoi?
Combien
vous êtes aujourd'hui?
Aujourd'hui, on est en comptant tout le monde. On est une douzaine de personnes quand même, l'air de rien. Hein. Alors, tout le monde n'est pas à plein temps, mais on est une douzaine de plumes différentes. Ce qui fait donc, dans le domaine des journalistes, 12 égos à gérer, mais ça, c'est... On sait faire, hein, y a pas
ils
de souci.
Ils sont quand même gentils de manière générale.
Ils sont adorables, mais bien sûr.
D'ailleurs, tu peux peut-être nous en parler un peu.
Ben oui, on va en parler, parce qu'il faut les citer toutes quand même. Alors, dès l'origine, on en a déjà parlé, il y a Véronique Leblanc, qui est là depuis le premier numéro, avec Charles Noir. Ce sont deux complices, deux amis dans la vie, qui sont arrivés en même temps. Je connaissais Véronique et pas Charles à l'époque. On a beaucoup travaillé ensemble et très vite, ils ont la mentalité des fondateurs, des pionniers. Hein. C'est ceux qui étaient dans le Chuck Reagan aux États-Unis, c'est-à-dire qui étaient attaqués par les Indiens et qui allaient direction plein ouest. Hein. Donc, il peut leur arriver n'importe quoi. Ils sont blindés, ils connaissent tout. Ils sont encore avec nous aujourd'hui, bien entendu, les piliers de la Fondation d'Hors Normes. Très vite, Alain Ancien, Eric Achely et Benjamin Thomas nous ont rejoints. Des plumes très différentes. Eric Achely est à Paris, elle contribue à Hors Normes, mais elle nous rattrape pas mal d'invités parisiens. C'est une personne qui...
Et puis elle vient souvent nous voir.
Elle vient très souvent nous voir. Elle contribue dans le magazine. Alain Ancien et Benjamin Thomas sont des locaux qu'on a dénichés pour l'occasion, qui travaillent exclusivement pour Hors Normes et qui, eux aussi, dénichent les sujets dans le domaine culturel, dans le domaine événementiel. Ils sont là dès le numéro 4, quasiment tous les trois. On sera rejoint un peu plus tard, alors ça sera après avant l'arrivée de Patrick, je crois que c'est quand même Barbara, je me souviens plus si c'est avant l'arrivée de Patrick.
Non, c'est après, je crois c'est qu'elle après, vous a rejoint sur Épicurien, sur les IS, je crois.
Oui, c'est ça, voilà. Barbara Romero, qui est une, qui a pigé déjà pour les Dénins, qui pige à l'époque beaucoup pour elle.
Encore aujourd'hui,
voilà. Et qui connaît bien Hors Normes, parce qu'elle le lit, tout simplement, et qui est ravie de nous rejoindre. Aurélien Montinari, ça c'est un cas un peu spécial.
Oui.
Aurélien était au Japon. C'est un, comment dire, japonisant quand on aime le Japon.
Je ne sais pas.
Voilà. Bon, un helléniste quand on aime la Grèce, mais comment on dit pour le Japon, je ne sais pas. Bref, il est passionné par le Japon.
C'est Régis qui nous le présente d'ailleurs.
C'est Régis qui nous le présente. Il est au Japon. Il vit là-bas, il travaille là-bas. Et il nous fait une rubrique sur le site internet, un petit billet.
C'est ça, c'était Un Alsacien au Japon.
Un Alsacien au
Japon. Tous les samedis matins publiés, vous pouvez encore le retrouver sur hors-normes.fr d'ailleurs.
Oui, on décèle par son talent d'écriture et aussi sa ponctualité, parce que ça c'est une qualité que n'ont pas tous les journalistes.
Un vrai
japonais. Et il a du talent, moi je ne le connais pas physiquement à l'époque. Hein.
D'ailleurs, pas personne au final.
Non plus, hein.
Enfin moi je l'avais croisé avant avec Kléber, mais c'est vrai que c'était des échanges de mails en fait, essentiellement.
Il revient viendra du Japon et du coup on le contacte tout de suite grâce à Régis et il incorpore l'équipe d'Ornum, délicieux garçon, superbe plume, organisé.
Directeur aussi de la rédaction de Habité.
Oui,
par
c'est
rédac
ça.
Chef, comme
il
on dit.
Il est devenu rédacteur en chef du magazine Supplément Habité depuis.
C'est ça, et qui nous aide beaucoup aussi sur le web, puisque rédac chef aussi voilà. Du web, donc voilà.
Ouais. Aurélien,
un autre maillon essentiel dans la vie d'hors norme.
La crème du journalisme incarné, donc c'est passionnant de travailler avec lui. Une personne délicieuse, Jessica Ouellet, nous rejoint aussi. Elle est québécoise d'origine, elle est mariée à un viticulteur alsacien.
Je crois que c'est Anka Vessant qui lui avait parlé de nous.
C'est Anka, oui. Anka Vessant, la directrice du Club de la Presse, qu'on avait mis en grand entretien dans un hors-norme aussi. Et Jessica nous contacte, et c'est un vrai bonheur. Cette fille est délicieuse. Pour un rédacteur en chef, pour un directeur de rédaction comme moi, par contre, c'est compliqué, parce que dans ses écrits, elle a encore quelquefois des expressions typiquement québécoises. Alors, une expression typiquement québécoise, c'est quelque chose qu'on comprend à peu près à demi-mot, quand je le lis, moi en tout cas, parce qu'on connaît le sujet, bien entendu, on comprend à demi-mot ce que ça veut dire, mais c'est imbitable pour le français moyen. Donc, il faut que je la rappelle régulièrement, c'est délicieux à lire et à entendre, bien entendu, mais à lire, c'est un peu plus compliqué quand même, pour qu'elle mette en français un titre qui, pour elle, jaillit de sa nature profonde, tout simplement parce que c'est sa langue natale, hein, le parler canadien.
Oui, c'est ça. Alors, je ne sais plus depuis combien de temps elle est en France, mais en tout cas, elle vit à Andelot, donc puisqu'elle est sommelière au domaine VAC.
Elle tient des rubriques régulières sur le vin, qui est évidemment sa passion, pas seulement maritalement parlant. C'est sa formation aussi. Et puis, depuis, elle s'évade dans d'autres domaines. Et c'est quelqu'un de délicieux à lire et à fréquenter. Là aussi, c'est un bonheur de travailler avec elle. Thierry Jobard, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Il est libraire chez Kléber. Il s'occupe du rayon philosophie, essai à Kléber. Comment dire de Thierry ? C'est un intellectuel comme on les aime. C'est-à-dire, c'est un intellectuel sans la grosse tête et qui ne nous farcit pas d'idées à la con tous les jours. C'est quelqu'un de très cultivé, qui a de la profondeur, qui voit les faits de société, qui c'est un philosophe lui-même, donc quelque part, sans problème. Et il a accepté avec plaisir de prendre une rubrique qui était au départ uniquement consacrée à la philosophie, et qui évolue de façon très sympathique maintenant vers les faits de société. Dans le numéro du printemps.
La chronique s'appelle Le Parti pris de Thierry Jobard.
Le Parti pris de Thierry Jobard. Il nous parle du complotisme dans le numéro de printemps, par exemple. Il est sur des faits d'actualité qu'il regarde à la fois un peu de façon philosophique.
Amusé aussi parfois. Thierry a beaucoup d'humour.
D'amuser. Et même quelquefois, ça saigne, quoi, parce qu'il a le trait qui va bien, donc il est tout à fait en homme. On a Elena Angelowski aussi, c'est une jeune femme qui est profondément sociologue, qui enseigne aussi à l'université de Strasbourg notamment, et qui nous fait des rubriques de façon qui traite l'actualité de façon très littéraire.
Fiction du réel.
Fiction du réel, voilà. C'est donc du texte long, très littéraire, qu'on va modifier profondément dans les numéros qui viennent, avec des fragments de la vie vécue, etc. Donc c'est un parti pris très intéressant pour qui aime la littérature. Amélie Démier est une journaliste qui était jusqu'à peu encore sur FIP, qui malheureusement aujourd'hui a scandaleusement cessé son activité à Strasbourg. Amélie Démier travaille sur des gros dossiers avec nous, c'est un vrai bonheur de travailler. Et puis récemment, on a été rejoint également par Isabelle Baladi-Novalde, également libraire à Kléber, ex-libraire à Kléber, désormais en retraite, fanatique de poésie et de vie strasbourgeoise.
Et poétesse elle-même.
Poétesse elle-même. Mmh. Isabelle Baladi nous balade, justement, sans mauvais jeu de mots, on a dû lui faire 20 000 fois ça, et à travers le... Ce parti pris de... C'est très intéressant d'avoir dans un magazine de société, en quelque sorte comme Ornum, c'est très intéressant d'avoir un regard enfin un peu décalé, quelqu'un qui ne fonctionne pas avec le tableur Excel, avec toutes ces conneries, et qui regarde notre monde tel qu'il évolue avec tout le décalage de la poésie.
Tu as des profils en fait très variés, que ce soit en âge, en domaine.
Absolument.
Tu as le texte, mais tu as aussi l'image, puisqu'on a un pool de photographes qu'on adore.
Ça s'est bâti de la même façon. Au départ, le tout premier photographe d'Albon, c'était Alban Efti. Alban, c'est un jeune garçon qui un jour me contacte, il vient du Nord, il est tout jeune, il est timide, il a aucune éducation de business, c'est-à-dire qu'il est brut de décoffrage.
Il ne sait pas se vendre.
Il ne sait pas du tout se vendre. il est tout jeune, il arrive à Strasbourg il y a longtemps maintenant, il y a 8 ans, je crois que je connais déjà Alban. Il me contacte parce qu'il a vu le magazine, il a trouvé ça génial, il se dit ça serait bien qu'en tant que photographe je travaille là-dedans, mais il est autant photographe que moi je suis Mister Univers à l'époque, quoi. Il a acheté, il s'est vraiment, il a cassé la bourse pour s'acheter un appareil photo de qualité, qui a un objectif de qualité, mais il est arrivé à Strasbourg sur les traces de sa compagne, il vient par amour poursuivre sa compagne qui j'imagine a trouvé un boulot ou des études ici, je ne sais pas trop, et puis il n'a pas un seul client, il veut faire photographe et puis il ne sait pas trop quoi faire de son temps, il voit un homme, il ose, ce qui pour lui à l'époque devait être un truc inconcevable, il ose me contacter. Et je le rencontre au café Broglie, je m'en rappelle, et je tombe sur ce garçon en me disant au début voilà, et puis il me montre très vite deux ou trois photos qu'il a réalisées avec des jeunes qui plongent dans le grand bassin là-bas vers l'UGC. Il a un œil, je constate vite qu'il a un œil. Il regarde la société, il a un vrai œil, quoi. Et donc, du coup, j'ai besoin d'un photographe. Je dis, allez, vas-y, on va faire de la presta. Alors, au début, c'est 220 euros par-ci, 100 euros par-ci pour illustrer des sujets, bien entendu. Je fais avec les moyens que j'ai à l'époque, hein, c'est il y a longtemps. Mais ça le lance. Et peu à peu,
il s'est bien développé depuis.
Il prend de l'assurance.
Il photographe sur les bibliothèques idéales, la ville de Strasbourg.
Bon. Et depuis, sa timidité a disparu totalement, son introversion. Il était très introverti, replié sur lui-même, etc. Et moi, je suis très content de la rencontre avec Alban. Ça sert aussi à ça. Hein. Un vieux con comme moi, c'est mettre le pied à l'étrier à des jeunes qui le méritent.
Et alors, ton acolyte, Nicolas Rosès.
Bah alors, lui, ça, c'est Véronique Leblanc qui me le présente et je découvre un personnage ébouriffant. Nicolas,
Vous avez forcément déjà croisé à Strasbourg, toujours dehors, son appareil à la main.
Ah oui, Nicolas, c'est le piéton de Strasbourg, le photographe de Strasbourg, il est partout. Ce qui est intéressant chez Nicolas, c'est qu'il avait avant, je ne le savais pas, je ne l'ai pas connu à cette époque, c'est Véronique Leblanc qui le connaissait, il avait une galerie d'art. Il s'est planté complètement avec ça parce que voilà, le créneau de la photo artistique, alors une galerie c'est compliqué, mais sur la seule photo là, ça devient voilà. Et très vite je décèle chez Nicolas une forte envie de travailler, je lui dis il faut que tu deviennes photographe de presse. En même temps je lui raconte que c'est juste l'enfer photographe de presse parce qu'on gagne pas forcément sa vie.
Vas-y mais attention
ouais. Et il se lance à corps perdu là-dedans. Il dit, ouais, ça, t'as raison, c'est mon truc, je vais développer ça. Nicolas, c'est un type étonnant. J'ai une relation tout à fait particulière avec lui parce que, on en parlera d'ailleurs dans un prochain numéro, lors des attentats, on a vécu ensemble des choses incroyables, inattendues, évidemment. Mais moi, je me rappelle d'une anecdote que je vais absolument raconter très vite. Je suis à Paris pour interviewer Jean Tellet. Il se trouve que Nicolas est aussi à Paris. On a un photographe parisien dont je vais parler tout à l'heure qui me rejoint sur les reportages à Paris, évidemment. Mais ce jour-là, on fait Jean Tellet ensemble. Jean Tellet habite dans le Marais avec Miu Miu, qui est son épouse. On fait une interview extraordinaire avec cet écrivain que j'aime beaucoup. Et du coup, on a un petit peu de temps et on se retrouve tout à côté, place des Vosges. Et on se mange des moules frites, je me rappelle, à une petite terrasse. Et lui, l'après-midi, devait aller au salon Paris Photo. Et pour lui, hein, pour son plaisir et pour aussi se documenter, enfin, en tant que photographe de presse, voilà, il a prévu de couvrir cette manifestation. On déjeune ensemble et on a une énième conversation sur la difficulté du travail de photographe. Et à ce moment-là, je lui dis une chose ce jour-là, parce que ça fait déjà au moins deux, trois ans qu'on travaille ensemble. Je dis, tu sais, Nicolas, t'es un photographe de presse, moi je le vois bien. Tu es fondamentalement, alors tu rames, etc., bien entendu, comme tout le monde, mais tu es un vrai photographe de presse, c'est-à-dire un type qui de toute façon ne lâchera jamais rien, et donc tu es sur un chemin, sur ton bon chemin, puisque c'est ce que tu as envie de faire, et tu jouis de le faire tous les jours, même quand c'est difficile au niveau financier, tu es sur ton vrai chemin, et quand on est sur son vrai chemin, on rencontre forcément les bonnes personnes. Et tu as fait le geste le plus dur qui était d'arriver sur ce chemin et de marcher dessus. C'est comme ça la vie, ça vaut pas seulement pour ça, ça vaut pour plein de choses. Quand on est là où on doit être, en harmonie, en bonne vibration, on finit par rencontrer les bonnes personnes. On se quitte, il est 14h, moi je vais boire un verre avec l'ami Marie Calter qui habite tout à côté, c'est prévu, hein, ou un café chez lui, ça se passe comme ça, quand on se connaît bien, et je vais reprendre le TGV quelque part. Et dans le TGV, Nicolas, ça devait être pour lui 16h ou 17h à peu près, je suis déjà dans le TGV, m'envoie une photo. D'abord, il m'envoie un texto. Devine qui j'avais plein pot dans mon objectif à 1m50 de moi. Pff, j'en sais rien, quoi. Et il m'envoie la photo derrière, David Lynch. David Lynch, à un mètre de lui, qui lui fait le sourire du siècle, parce qu'il est le seul photographe là. Du coup, il a discuté avec lui, etc. La parfaite illustration de ce qu'on se disait sans savoir. Quand, franchement, il faut le dire aux auditeurs, quand vous êtes sur votre bon chemin, vous n'avez que des bonnes rencontres à faire. C'est comme ça que la vie se passe. Donc, on a aussi Vincent Muller, qui à cette époque est le meilleur portraitiste de Strasbourg, ça je le dis.
Qu'il est toujours.
Sans, oui, il est le meilleur portraitiste de Strasbourg, sans vexer quiconque d'autre, qui nous rejoint, parce qu'on a beaucoup de une à ce moment-là avec des portraits.
Vincent Muller qui faisait les portraits sur les bibliothèques idéales depuis quelques années aussi.
Oui,
portraits magnifiques et qui souvent des couvertures et oui. Dans la presse nationale.
Oui, Vincent est un garçon qui a trouvé là aussi son bon chemin. Enfin, il ne fait pas que ça, mais il a trouvé son bon chemin et on travaille avec lui. Sophie Dupressoir, qui est une photographe qu'on a mis dans un portfolio pour son travail sur Sarajevo et avec qui on a fini par travailler régulièrement. Sophie qui développe son travail de
qui
façon...
Qui a fait toutes les photos du livre de ma vie, tous
absolument,
les portraits.
Qui était un hors-série d'Ornon. Ouais. Découvert sur les attentats, et quand je dis découvert par nos soins et par tout le monde, parce qu'il y a 40 rédactions mondiales qui ont acheté ces photos, Abdeslam Mirdas, qui est là au bon endroit, au bon moment, mandaté.
Et qu'on a interviewé, je me souviens, ensemble en vidéo quelques jours après.
Oui, parce que le travail de ce garçon que je ne connaissais pas du tout s'est révélé lors des attentats. Comme il le dit lui-même avec humilité, il se serait bien passé de cette notoriété-là, évidemment, parce que c'était pour des sujets tragiques. L'affaire est vite faite. Hein. L'AFP entend, le bureau de l'AFP de Strasbourg entend parler d'attentats très vite. Et le directeur de l'AFP de Strasbourg de l'époque connaît bien Abdeslam Mirdas, parce qu'il travaille avec lui sur des sujets quelconques. J'ai quelconque, quoi, sans caractère événementiel important. Et quand il entend parler que les attentats se sont produits dans le quartier de la cathédrale, rue des Orfèvres, donc, immédiatement, il pense à Abdeslam, parce qu'Abdeslam habite à deux pas. Il habite sur le côté de la cathédrale. Et Abdeslam, ce soir-là, enfin, on en parlera, reçoit un coup de fil, court vite. Il s'est passé quelque chose de grave rue des Orfèvres.
Il, sans savoir, y va. Ouais.
Il est en train de faire chauffer une pizza parce que sa journée était terminée dans son four micro-ondes. Il abandonne tout, il éteint le four, il gicle dehors, il est le premier photographe sur place. Et tout son travail va être publié par 40 rédactions mondiales. Et c'est un garçon, tu le connais, Lisa, qui est d'une modestie incroyable, d'un talent fou. Et donc, il fait évidemment partie de l'équipe d'Ornum. Caroline Paulus, qui est la complice de Jessica Alouette pour tous les reportages sur les vignerons, etc. Il faut en parler. Franck Guizeni à Paris, qui est notre photographe parisien, qui m'accompagne lors des interviews qu'on fait à Paris avec les auteurs, avec les acteurs, etc. Et qui adore travailler avec nous, bien évidemment. Et puis, notre petit dernier, Marc Ziekorski, qui vient d'intégrer dans l'équipe, qui est un jeune photographe, là aussi débutant, un peu le profil d'Alban Efti, et qui nous accompagne, notamment pour les photos de nos partenaires dans le supplément spécial partenaire qu'on a édité dans notre numéro de mars.
Donc, forcément, une équipe qui s'est vraiment agrandie et qui, du coup, t'offre, un panel de sujets, qui s'élargit, en quelque sorte.
Alors, c'est un boulot, c'est un vrai boulot. Je voudrais citer aussi dans les apports de Patrick les 350 points de diffusion d'Ornum, qui, en dehors d'Eden et de la Libye Kleber, qui constituent les points forts de notre distribution, on est disponible sur 350 points, ce qui est le maximum
très
qu'on puisse faire.
Ouais.
Très important. Et puis surtout, c'est ce travail de rédaction qui, effectivement, comme tu le dis, a pris beaucoup d'ambition depuis quelques années. C'est peut-être important de dire à nos auditeurs, pour terminer, comment se fabrique un numéro.
Oui, c'est vrai, parce que nous, alors on a le nez dedans, il y a des choses qui nous paraissent très évidentes, très naturelles, mais on ne se rend pas forcément compte du travail qui est fourni pour arriver là à l'objet qu'on a devant les yeux, ce magazine qui sort alors 4 fois par an, et je ne compte pas les hors-série. Alors, est-ce que tu peux un peu nous expliquer quel est le travail d'une rédaction au quotidien?
Tout commence en fait à la sortie d'un numéro. Quand le numéro sort, d'abord avec Patrick, on le débriefe tous les deux de façon intime, sans concession, etc. Ça, c'est notre boulot. Toi aussi, tu es là-dedans, Lisa. Et ensuite, on convoque, on invite une conférence de rédaction où normalement tous les journalistes sont autour de la table. Généralement, c'est un joyeux bordel qui dure 3 heures, parce qu'on est tous heureux de se retrouver, parce qu'on n'a pas de bureau attitré. Tous sont des indépendants. C'est notre, pas encore, mais oui, c'est vrai que ça manque. On va y travailler, mais en tout cas, on se réunit et on est à peu près à J+7 après la sortie du numéro dont on parle. On le débriefe ensemble, on se dit ce qui est bien, ce qui est mal dans ce numéro, enfin, ce qui est bien ou moins bien, disons. Et puis, surtout, chacun va chacun son tour. Bon, généralement, je donne la thématique, la grande thématique, quand elle est connue, en tout cas.
Oui, parce que tu as quand même des numéros qui sont assez marqués. Je pense à décembre, notamment, qui est quand même axé très art, septembre, ouais. Plus culture.
Oui, voilà. Et il y a quelquefois une thématique qui s'impose, et d'autres fois, par définition, puisqu'on suit l'actualité, une thématique qui n'est pas connue au moment de la conférence de rédaction. Donc, ce qui est connu, on en parle. Ce sont les axes que je donne, parce que, de toute façon, ça, c'est le boulot d'un directeur de la rédaction. Mais chacun, après, à son tour, a déjà travaillé certains sujets, se met à les proposer. Donc ça, on écoute les gens, les motivations des gens, on dialogue même quelquefois en live. Quelquefois, il m'arrive de dire non, tout de suite non, parce que ça, ce sujet-là pourra peut-être, dans mon sens déjà, parce que je vois un peu plus loin qu'un numéro, moi, pourra être inséré dans un numéro ultérieur, parce qu'on aura la thématique qui va bien avec. Quelquefois, le sujet qui est proposé n'est pas mature, c'est-à-dire qu'il n'est lui-même pas très élaboré, on n'est pas trop sûr. Et souvent, très souvent, je dis oui, spontanément, mais à ce stade-là, c'est un oui de conférence de rédaction. C'est-à-dire que, voilà, on fait tout le tour, ça dure longtemps, c'est passionnant. Chacun se bat jusqu'à la dernière limite pour imposer son sujet. C'est le but d'une conférence de rédaction. Je confirme généralement ça dans la semaine qui suit. Là, ce sont les vraies décisions de rédaction. Je fais des choix.
Fais ton sommaire, en fait.
On fait le sommaire parce que, bien entendu, tout ça correspond à un nombre de signes. Dans une bouteille d'un litre, on peut mettre un litre et pas un litre et demi. Hein. Donc, déjà, à cause de ça, ce sont des choix, quelquefois, de rédaction, des choix de ligne éditoriale, des choix d'intérêt. Bon, quelquefois, ça peut être vécu de façon abrupte, un petit peu, mais malheureusement, c'est ça le boulot.
Et en même temps, tu figes au maximum les choses. Oui. Mais parfois, l'actualité, et ce sera l'objet d'un autre podcast, s'impose et tu chamboules tout.
Et donc, on passe commande carrément du sommaire au journaliste avec un nombre de signes très précis. On passe commande photographique également au photographe. Ça, c'est les journalistes qui s'en occupent avec moi. Tout ça est figé ensuite pendant... figé dans la théorie, parce que, si, comme tu le dis, on en parlera d'ailleurs dans un autre podcast, si l'actualité vient bouleverser tout ça comme un jeu de quilles, ce qui est le but, c'est le principe même de l'actualité. Et puis, quand on est un magazine de journalistes, on est sujet à ça aussi, hein, c'est sûr. On n'est pas une plaquette publicitaire, hein, encore, on ne fait pas de publi-reportage préparé à l'avance, ce n'est pas notre axe. Et donc, tout ça est figé, les journalistes partent au combat, ils ont généralement 2 petits mois, à peine, pour faire tout le travail, essayer du travail, parce qu'il faut rencontrer les gens un par un. Les interviews par téléphone sont rarissimes dans notre métier, en tout cas de la façon dont on le fait.
Sauf en 2020.
Ah oui, bien sûr, bien entendu, hein, évidemment. Mais même encore en 2020, je connais des journalistes qui ont fait des rencontres clandestines. J'en ai été, hein, que le ministre de l'Intérieur vient de m'arrêter, c'est pas grave.
Vous n'avez rien entendu.
Voilà, voilà. Et donc, voilà, le travail se fait peu à peu. De temps en temps, il m'envoie un petit coup de fil pour me rassurer. De temps en temps, quand je crains, je vois très bien les endroits où ça peut coincer. C'est moi qui leur pose de temps en temps.
Donc tu fais un travail d'accompagnement aussi.
Est-ce que ils savent qu'ils peuvent m'appeler à tout moment s'il y a si besoin? Et moi, quelquefois, je me rassure moi-même en téléphonant à quelques-uns en disant, t'es sûr que t'as bien vu, tu connais la date, etc. Voilà. Et c'est comme ça que se fabrique un numéro. Ensuite, c'est un bouclage, on met en page, les gens d'Isaac mettent en page, nous-mêmes on corrige, tu corriges d'abord l'orthographe, tu dépétouilles, comme on dit dans notre métier, et encore on dépétouille pas tout parce que c'est impossible, il y a toujours des fautes et ça c'est de tradition. On met en page, c'est un aller-retour qui dure 15 jours quelquefois, et ensuite c'est le moment magique, on envoie tout à l'imprimeur, c'est le BAT, et c'est à ce moment-là que toi, Patrick et moi, pas les journalistes parce qu'eux sont soulagés déjà depuis un bon moment, c'est pas leur travail ça, on pousse un grand soupir de soulagement en disant « enfin 15 jours tranquille ».
Et après, on pense à la suite.
Mais après, pendant ce temps-là, l'imprimeur arrive, ensuite hors norme arrive, et de nouveau, ça recommence. À J+7, on fait la conférence rédaction, et c'est reparti pour un tour.
Et surtout que là, on parle surtout des numéros trimestriels, mais comme je disais avant, hors norme est maintenant partenaire de beaucoup d'événements à Strasbourg. On a beaucoup de hors-séries. Je pense à Start, aux Internationaux de Strasbourg. On avait fait le hors-série Le Livre de ma vie. Donc, je pense à Habiter aussi, notre hors-série sur l'immobilier. Egast aussi, épicurien, dans le monde de la gastronomie.
Le dernier né sur l'innovation dans les entreprises.
C'est ça qui, au moment où vous écoutez ce podcast, sera sorti, avec le Semia et Quest. Donc voilà, l'année 2021 est riche et j'imagine que la suite le sera tout autant. Donc merci pour cette plongée dans les coulisses de la vie d'hors norme, d'une rédaction. Et on se retrouve prochainement pour continuer à développer cette histoire et l'essor d'hors norme. Merci Jean-Luc.
Avec plaisir Lisa, à bientôt.